franceinter.fr.
La revue de presse, c'est avec Lionel Thompson. Bonjour Lionel.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Les violences gynécologiques sont-elles un mal français ? Sous le titre de une un peu provoque, gaffe aux cons, Libération se penche longuement sur la question ce matin. Une question qui se pose après les récentes déclarations de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui a dénoncé fin juillet le trop grand nombre, selon elle, d'épisiotomies lors des accouchements en France. Le chiffre cité par la secrétaire d'État, 75% d'épisiotomies lors des accouchements, était sans doute faux, relève Le Quotidien. Mais la question n'est pas de savoir si ce nombre est exact, mais s'il y en a trop, relève le médecin Martin Vinclair. Et de fait, Libération explique que les pays voisins, notamment anglo-saxons, en pratiquent beaucoup moins, et surtout qu'en France, on demande rarement leur avis aux femmes qui les subissent. Libération qui a recueilli aussi les expériences traumatisantes de femmes lors d'examens gynécologiques, comme cette jeune femme qui explique par exemple avoir subi sans prévention, dès sa première visite à 18 ans, un frottis de dépistage du cancer de l'utérus, alors que cet examen n'est préconisé qu'à partir de 25 ans. Alors, où est le mal? Dans les restrictions budgétaires qui ont dégradé les conditions de travail à l'hôpital, comme le plaident certains médecins, ou plutôt dans la formation des médecins qui n'insistent pas assez sur la dimension humaine de leur tâche, comme le considère Nathalie Sage-Pranchère, historienne, spécialiste de ces questions interrogées par Libération. Quoi qu'il en soit, comme le relève Alexandra Schwarzbrod dans l'éditorial qui accompagne ce dossier, l'époque paternaliste et infantilisante où les femmes subissaient ces pratiques en serrant les dents et sans rien dire semble révolue. Les contestations de ces pratiques se renforcent en effet. De notre santé, il est aussi question, mais dans notre assiette, avec l'affaire des œufs contaminés au fipronil. Parmi les journaux qui reviennent à nouveau ce matin sur cette affaire, Le Canard Enchaîné se montre très saignant en dénonçant les failles béantes du système de contrôle français. Les chiffres cités par l'hebdomadaire sont, il est vrai, édifiants. Sur les 15 milliards d'œufs consommés sous une forme ou sous une autre en France l'an dernier, savez-vous combien ont été contrôlés par la Direction Générale de l'Alimentation ? Une petite idée, Pierre, sur 15 milliards d'œufs.
Allez-y.
Eh bien, sur 15 milliards d'œufs, ce n'est pas 2 millions ou 1 million ou même 100 000 œufs qui ont été contrôlés, mais 677. Oui. 677 œufs sur 15 milliards, selon Le Canard. Ça ne fait pas une très grosse omelette, c'est vrai. Et Le Canard enfonce le clou si un labo allemand Tatillon, employé par une usine de transformation d'œufs en Belgique, n'avait pas eu l'idée saugrenue de rechercher la présence de fipronil alors que personne ne lui demandait rien. Des millions de consommateurs européens auraient continué de gober en toute ignorance des œufs enrichis avec un produit chimique interdit dans les élevages, une substance qu'aucun service de contrôle de l'Union européenne ne s'est jamais avisé de traquer. À lire aussi dans Le Canard Enchaîné ce matin, un article sur les critiques du MEDEF concernant certains projets à venir du gouvernement en matière de fiscalité des entreprises. Le Canard, qui s'est procuré un document interne de l'organisation patronale, et titre « Macron déçoit même le MEDEF de Gattaz ». Le Canard, qui n'est pas le seul ce matin à revenir sur les soucis présents ou à venir du président de la République en proie à une chute dans les sondages. « Macron, l'ombre d'un doute », titre ainsi l'Opinion, qui décrypte cette baisse de popularité et date très précisément le début des ennuis présidentiels, le 3 juillet, quand Emmanuel Macron s'est exprimé devant le Congrès, coupant l'herbe sous le pied de son Premier ministre, Édouard Philippe, qui devait faire son discours de politique générale le lendemain. À partir de là, tout s'enraye, note Le Quotidien, qui mentionne les annonces contradictoires qui ont suivi. Baisse du budget des armées, baisse des aides personnalisées au logement, recul des dotations aux collectivités locales, etc. Pour Philippe Marcacci, qui consacre lui aussi son éditorial dans l'Est républicain à ses difficultés pour Emmanuel Macron, on a bien du mal à lire une ligne directrice. Il est temps de passer de la communication à l'action, ajoute l'éditorialiste, parce que pour l'instant, la présidence Macron ne ressemble qu'à un énigmatique paquet cadeau. De l'extérieur, il y a de quoi impressionner, mais l'on se demande toujours ce que cache l'emballage. Ce que cache l'emballage, les projets du gouvernement, Le Figaro y consacre également sa une ce matin avec une interview du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et en se penchant aussi sur une des possibles réformes à venir, celle des emplois aidés pour lesquels Macron veut tout remettre à plat, titre Le Quotidien. Ces emplois aidés qui existent depuis les années 80 coûtent 3 milliards d'euros par an en moyenne à l'État, mais ne permettent pas forcément un accès durable à l'emploi, selon Le Figaro. Cette réforme de dispositif très utile aux collectivités locales et aux associations risque toutefois de se heurter à des oppositions, note Le Quotidien. Ce que mentionne aussi la Charente Libre, qui titre en une ce matin « Emploi aidé payer le coup de rabot qui fait mal. Et pour revenir au Figaro, ce cri du cœur de l'éditorialiste Jacques-Olivier Martin, souhaitons que la droite, par démagogie, ne joigne pas sa voix au cœur des pleureuses. Cette réforme des emplois aidés, elle aurait dû la faire depuis longtemps. L'Humanité évoque une autre réforme à venir, pas hypothétique celle-là, celle du Code du Travail, mais pour s'en inquiéter, la casse du droit du travail amplifie les risques de crack, titre en une Le Quotidien, qui invoque le travail de deux chercheurs britanniques pour qui la baisse des droits des salariés ne favorise pas l'emploi, mais surtout la financiarisation de l'économie. Une financiarisation sur laquelle l'Humanité se penche 10 ans après la crise des subprimes, avec des chiffres qui donnent le tournis. 10 ans après cette crise qui a ébranlé le monde, la valse des milliards, la finance, l'endettement et les bulles spéculatives sont reparties de plus belle. Ce nouveau baril de poudre prêt à exploser est 3 ou 4 fois plus grand qu'en 2007, s'inquiète l'économiste Denis Durand, interrogé par l'Humanité. Plus léger, Le Parisien préfère, lui, titrer sur la météo ce matin. « Quel été pourri !» s'exclame Le Quotidien parisien. C'est vrai que les températures sont au-dessous des normales de saison, confirme un météorologue interrogé, au grand dam des touristes. Mais pour La Croix, le plus important en été, ce n'est pas tant la météo que de savoir déconnecter, savoir couper son portable et ne plus penser au travail. Le Quotidien consacre 2 pages à ce nouveau droit inscrit depuis peu dans le Code du Travail pour constater d'abord que les entreprises ne se sont pas pressées de négocier, comme elles en ont pourtant l'obligation pour concrétiser ce droit, et pour constater aussi que les salariés, surtout les cadres, tendent souvent le bâton pour se faire battre en consultant leur messagerie professionnelle pendant leurs vacances sans que rien ne les y oblige. Le problème, c'est qu'on aime ça, explique Dominique Boulier, sociologue spécialiste du numérique, interrogé par La Croix. Cette addiction génère du stress, de l'adrénaline qui nous donne l'impression de mieux appréhender le monde, ajoute ce même sociologue. Mais un stress qui est aussi largement responsable, selon lui, des burn-out qui se multiplient dans le monde du travail. Et il conclut, on pense être présent à tout le monde grâce à la connexion, mais en réalité on finit par ne plus jamais être présent à rien, ni à personne. On est sans arrêt ailleurs. Pendant ce temps-là, les concepteurs d'applications de la Silicon Valley, eux, suivent des cours de méditation et envoient leurs enfants dans des écoles sans écran. C'est-à-dire dans La Croix, aujourd'hui, sur la plage et en coupant son portable.
C'était la revue de presse avec Lionel Thompson.